semaine au festival Sony Peri Popolo, festival de son underground à Montréal. Joe McPhee, Radu Malfatti, Rhys Chatham et Oneida, Nate Woolley, Paul Litton et Ken Vandermark, Terry X et Paul Nilsson Love, Elfensaddle, Hanged Up, Lean Left, Staircase, Nouveau Jazz Libre de Québec, Theologian, Anne, Emrical, Ian Kamau, Joe Morris Trio. Calendrier complet, billets et informations en ligne au sonyperilpopolo.org. Les billets sont maintenant disponibles.
Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
Bonsoir et bienvenue à Du Vanguard au Savoie. Mon nom est Maxime Bouchard en poste pour la 9e émission de la 24e session. Ce sera la dernière émission de cette session d'été. On aura juillet et août en congé. Nous serons de retour pour une 25e session en septembre. Nous avons ouvert le tout avec un peu de Luis Perdomo. Ce sont nouveaux disques qui se nomment Lynx. Une production de chez Criss Cross Records avec Mikkel Zenon. Bien sûr, au sax alto, Dwayne Burno à la contrebasse, Ronnie Green à la batterie, Luis Perdomo, pianiste que j'ai déjà fait jouer l'été dernier. Mais voilà, une nouvelle offrande, toujours un musicien dans un style post-bop, toujours très intéressant. C'était une composition de ce dernier, The A-List, et nous allons revenir peut-être avec un autre morceau un peu plus tard ce soir. L'émission de cette semaine, on va parler beaucoup quand même, on a deux entrevues au programme. On va terminer l'émission avec du Frank Rosali sur l'album Cicada Music, ça c'est un album de chez Denmark. Aussi, en deuxième partie d'émission, on va avoir une entrevue avec Katarina Soukop, qui est une productrice, elle a produit, peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est une web capsule, un web documentaire Jazz Petite Bourgogne. C'est des capsules de même qu'un livre numérique qui s'en vient au début du mois de juillet, qui retrace l'historique du jazz dans la communauté de Petite Bourgogne. En fait, c'était vraiment très, très, très présent dans les années 40-50, d'où Oscar Peterson a grandi, de même que Oliver Jones. Ils ont réalisé un fantastique web documentaire. On va en parler avec elle, mais pour l'instant, je rejoins Marie-Ève Boulanger qui est en studio. Bonsoir Marie-Ève.
Bonsoir Max.
On se retrouve pour une dernière fois cet été.
C'est un peu triste, hein, de se faire couper l'air sous le pied juste avant le jazz.
Juste avant, si on veut des vacances, hein. On n'a pas le choix.
Effectivement.
Alors, Marie-Ève, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir?
Bien, j'ai une charmante invitée ce soir, nulle autre que Amy R. Roussel, qui est une pianiste. Amy R. Roussel, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton dernier album qui est sorti tout dernièrement.
Même aujourd'hui.
Aujourd'hui, mais félicitations, comment ça se fait? T'es pas en lancement.
En fait, on a comme séparé ça, on a sorti l'album là, puis les lancements se font en septembre, en fait.
Uh-huh. Ton album qui s'appelle Transit, c'est ton troisième
oui.
album en
deuxième.
Carrière?
Deuxième.
Et c'est ton troisième groupe, si je ne me trompe, ta troisième formation avec laquelle tu joues?
Deuxième officiellement, ouais. Je vous dirais, il y a eu un changement à un moment donné au niveau du bassiste, là, mais c'est le deuxième band officiellement.
C'est bon. Amy R. Roussel, parle-moi un petit peu de ta carrière. Tu commences à être assez connue au niveau du jazz émergent. Tu t'as tranquillement une place. À un moment donné, ce ne sera plus émergent, mais bon, il faut commencer à quelque part. Parle-moi, dans le fond, qu'est-ce qui fait que, mettons, tu joues du piano, puis tes études, des trucs comme ça?
En fait, je joue du piano depuis que j'ai à peu près 5 ans. Mes parents étaient... mon père est encore musicien, ma mère était dans le domaine aussi à l'époque. Donc, je viens vraiment d'un milieu là, très musical. On avait, quand j'étais petite, une école de musique dans la maison. Donc, je côtoie ça vraiment là, depuis mon enfance. J'ai commencé en classique, piano classique, comme beaucoup d'enfants au départ. Non, mais avec au départ les ABC ouais, et compagnie. Puis bon, après, j'étudiais au départ avec mon père.
Okay.
Et puis, j'ai continué en piano classique à peu près jusqu'à 12 ans, là, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai fait une audition pour rentrer au conservatoire. Malheureusement, je n'avais pas été prise à l'époque. Budget étant, il en prenait comme, je pense qu'il en prenait 4. J'étais la cinquième, donc ça n'a pas fonctionné. J'ai, à partir de ce moment-là, arrêté complètement pendant 2 ans, un peu découragée, puis bon, adolescence qui se trame. Puis finalement, mon père me disait toujours, tu devrais recommencer, c'est dommage que tu fasses plus de musique. Puis bon, il disait, on va recommencer, mais cette fois-ci, non pas en classique, mais je vais te montrer comment marchent les accords, la base de l'improvisation, puis tout ça. Puis finalement, après m'avoir répété ça pendant 2 ans, heureusement, j'ai repris le piano. Donc, j'ai repris vraiment cette fois-là très sérieusement. Et puis, j'ai suivi, je pense, pendant à peu près 2 ans à ce moment-là, des cours avec mon père. Puis après ça, j'ai fait une audition pour rentrer au Cégep Saint-Laurent. Fait que je suis rentrée donc avec Lorraine Desmarais au Cégep Saint-Laurent. J'ai fait mon DEC 2 ans là-bas. Puis après, je suis rentrée à l'Université de Montréal avec Luc Beaugrand cette fois-là.
Puis qu'est-ce qui fait qu'un pianiste classique, dans le fond, ça arrive souvent qu'ils vont bifurquer vers le jazz? Je veux dire, est-ce que c'est l'oreille qui est trop forte, qui se dit « je veux sortir de la partition »?
Ben oui, des fois, c'est un peu ça. En même temps, pour moi, le jazz, c'était pas quelque chose d'exotique. Mon père étant pianiste de jazz aussi, c'est quelque chose qui faisait partie vraiment de l'environnement. Juste pour vous donner un exemple... J'ai dû m'endormir à peu près à toutes les nuits à partir de 5 ans jusqu'à 8 ans avec Cold Concert de Keith Jarrett sur les oreilles ou You Must Believe in Spring. Fait que, c'était dans ma tête, veux pas, là. Fait que, pourquoi avoir bifurqué après? Je sais pas. Au départ, quand j'étais en classique, j'aimais ça, je pratiquais, puis bon, mais j'avais pas nécessairement une grande passion, autant que j'ai pu l'avoir après pour le jazz. À partir du moment où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser sérieusement, puis à voir à quel point on pouvait comprendre comment marche la musique à ce moment-là avec le jazz, parce que, veux pas, toute l'harmonie fait que... La compréhension de l'harmonie fait qu'après, on comprend...
Tu comprends tout en classique.
Exactement, on fait des liens, puis bon, on peut composer, on comprend l'improvisation, puis tout ça. Fait que je pense que c'est ça qui m'a allumé vraiment là-dedans.
Puis est-ce qu'il y a un compositeur qui t'a ouvert la voix? Moi, par exemple, de mon côté, j'étais très marquée par Maria Schneider au niveau du big band. De ton côté, ça serait quoi?
Ben au départ, je pense que ça serait Keith Jarrett probablement là qui m'a comme initié, si vous voulez, à l'impro. Puis dans le fond, après ça, j'ai découvert d'autres groupes et d'autres musiciens qui m'ont après ça donné toutes sortes d'influences, puis qui me permettent maintenant d'avoir tout ça dans la tête, puis de mixer ça et puis d'en faire quelque chose, de m'approprier finalement une musique et d'en faire la mienne.
Tout à fait. Et on dit souvent que le jazz féminin est plus émotif que le jazz masculin. Est-ce que tu serais d'accord avec ça?
Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a un petit quelque chose, mais en même temps, oui puis non. Il y a des pianistes hommes qui sont aussi, sinon plus... introspectif ou qui nous amène vraiment dans une gamme d'émotions vraiment variée, autant que certaines femmes, quel que soit l'instrument, mais je pense qu'il y a une couleur, il y a quelque chose de différent, oui.
Pour prouver ce fait-là, trêve de parlotte, on va écouter un petit peu de ta musique. Maxime, tu nous fais jouer quoi?
Allons-y avec Chronos, qui est la deuxième pièce sur l'album. C'est une pièce en trio ou c'est avec le quatuor, celle-là? Je ne me souviens plus.
Chronos, c'est simplement en trio.
Simplement en trio, puis on va réécouter aussi une pièce plus tard avec le quatuor, parce que c'est quand même important de le mentionner. Il y a un quatuor à cordes qui t'accompagne sur certaines pièces de l'album.
Oui, sur 5.
Puis avant de partir pour Chronos, est-ce que tu peux m'en glisser quelques mots?
C'est drôle, cette pièce-là, parce que j'avais une idée qui me trottait dans la tête à un moment donné de compo, puis je voulais passer vraiment une soirée relaxe. J'avais l'idée de vraiment, tu sais, de pas faire de musique, d'être vraiment comme, de lire, de prendre. Puis là, j'avais ça dans la tête, puis je me disais, si je l'écris pas, si je fais pas quelque chose, je vais le perdre, puis Non, en même temps, je me disais, non, non, demain, c'est correct, je m'en souvenais. Puis à un moment donné, la tentation était trop forte, je suis montée, j'ai commencé à écrire ça. Finalement, j'ai passé 4 heures à faire ça, puis à écrire la pièce.
Alors, on écoute ce sujet.
Et à la contrebasse et à la batterie, les musiciens qui t'accompagnent?
Nicolas Bédard à la contrebasse, Dominique Cloutier à la batterie.
On écoute ça.
Thank you.
Alors, c'était Amy R. Roussel, que j'ai toujours avec moi en entrevue avec la pièce...
Chronos.
Chronos.
De l'album Transit. C'est paru de manière indépendante, mais c'est notre musique. Est-ce que c'est un label indépendant ou...
Oui, exactement. C'est un label Rimouskois, en fait.
Mm-hmm.
Et puis, eux font affaire avec Outside Music, qui est le distributeur. Là, donc, c'est distribué.
Est-ce que tu viens de Rimouski toi-même?
Non, je suis pas native de Rimouski, mais ça porte à... tout le monde est un peu mélangé avec ça.
Peut-être parce que Rimouski, il y a du très bon jazz. Oui,
il y a un festival.
Oui, ben, je sais pas trop. Mais en fait, j'ai habité là, puis j'habite semi-là encore maintenant. Okay. Là, mais en fait, je suis native de Longueuil. J'ai passé mon enfant. À Boucherville. Là, fait que je viens pas de là-bas, mais mes parents viennent du Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a une attache là. Puis j'ai fait tout mon secondaire à Rimouski. Après ça, je suis revenue à Montréal pour les études. Puis maintenant, je voyage. Je transite entre les deux.
Ah, c'est bien ça. Donc, le mot transit, le titre est comme une...
Et puis, c'est bien choisi.
Oui, c'est ça. Puis est-ce que ça reflète un peu ton mode de vie actuel? Où est-ce que tu en es rendu?
Oui, c'était en fait surtout à cause de ce projet-là pour illustrer qu'on transite finalement dans l'univers des cordes, dans un autre monde que ce qu'on avait à date côtoyé puis ce qu'on avait fait. Donc, c'est dans ce sens-là un peu, là, transit, une incursion dans ce monde-là différent.
Oui, tout à fait. Puis, par rapport à ton premier album, rappelle-moi le nom.
Temps inégal.
Tu es sorti en 2010, ouais. Qui était quand même assez remarqué. Je l'ai remarqué en 2010
oui,
quand
on
il est sorti.
On l'avait fait jouer.
Fait passer, ouais. Puis, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la transition qui s'est passée entre ces trois années-là?
En fait, mm-hmm. Ben, en fait moi, j'avais déjà même un peu avant... si je me trompe pas, temps inégal, j'ai toujours beaucoup aimé les cordes, puis je me disais qu'à un moment donné, je ferais quelque chose que j'écrirais pour les cordes. Je savais pas quand, je savais pas quoi, je savais pas si ça serait avec mon trio. Puis finalement, à un moment donné, je me suis dit, ben ça ferait un beau projet de deuxième album. À ce moment-là, je me suis mis à écrire. Donc, j'ai composé, j'ai à peu près tout fait, non, j'ai tout fait finalement, les pièces en fonction... qui allait être ensuite arrangé avec des cordes. Fait que donc, tout
c'est-à-dire sur ton album qui vient de sortir, c'est
ouais,
ça?
Oui, exact. Okay. Fait que, à partir de là, je me suis mis à l'écriture. Puis donc, évidemment qu'en ayant un quatuor à cordes, des percussions classiques comme timbales, cloches tubulaires, on change complètement de couleur par rapport au premier. Juste étant donné la formation de musicien.
Mais tu vas chercher beaucoup de profondeur aussi de cette façon-là.
On a accès à d'autres dynamiques, à d'autres couleurs vraiment totalement différentes. Puis je pense que l'écriture aussi, les pièces sont aussi un peu différentes. Là, je pense que le premier album était un peu plus tranquille, un peu plus intime. Puis là, j'ai essayé d'aller comme pas nécessairement de faire différent de ça. Je pense que j'ai toujours ma touche là-dedans, puis on me reconnaît, mais on a quelque chose d'un peu plus dynamique, d'un peu plus actuel, ça brasse un peu plus, là.
Oui, c'est ça, puis en même temps, ça montre un peu une autre facette de ta personnalité.
Ouais, exact. Que j'avais peut-être... qui était peut-être timide dans le premier album. Je pense que après avoir fait un premier opus comme ça... Tu donnes plus de liberté parce que tu dis, ben, je suis capable
fait,
de faire ça, mais je suis capable d'aller ailleurs.
C'est
donc,
ça.
C'est ce que
ça me fait rire parce que tu dis ta couleur, effectivement, chaque musicien a sa couleur. Bon, je demandais à Jérôme Beaulieu qui avait une couleur lui-même. Je pense que c'était la tonalité, genre si bémol majeur ou quelque chose comme ça. Ce serait quoi ta tonalité à toi?
Ben, tonalité précise, je sais pas, mais
j'ai toujours un accord ou un
ouais, c'est ça, mais je suis souvent plus touchée par les accords mineurs.
Okay.
Fait que peut-être, je sais pas, un sol mineur neuf, là, genre accord trippant, là.
Oui. La neuvième ajoute, pour les non-musiciens qui nous écoutent, moi, je serais vraiment de parler d'accord, là, parce que... mais pour les musiciens qui nous écoutent, bon, la neuvième, en fait, c'est une espèce de friction qui a lieu. Peut-être que tu peux m'en parler plus, mais c'est ça qui ajoute beaucoup d'émotions.
Ben, c'est une extension, finalement. C'est l'équivalent d'une seconde, mais un octave plus haut. Donc, si on a un sol, un ton plus haut, on a un la à ce moment-là. C'est le la qui vient se rajouter dans notre accord de sol mineur 7.
Donc ça ajoute un petit hinge d'intensité,
ouais.
N'est-ce pas?
Exact.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Émilie Roussel, elle s'en va où exactement avec ce trio qui est plus qu'un trio, là?
Ben... on va où le vent va pouvoir nous mener, mais dans le fond, on est évidemment à essayer de se faire connaître le plus possible, mm-hmm. offrir autant la possibilité de spectacle avec toute la formation, donc avec les cordes, avec les percussions, même si ça devient un plus grand déploiement, et le trio, ou simplement avec le trio, parce que les pièces, les pièces de l'album, bien qu'ils soient pratiquement toutes avec cordes, on les adapte lorsqu'on les fait en trio, puis ça fonctionne sans problème. Donc, on a les deux formules qu'on peut offrir. C'est vraiment de pouvoir faire connaître notre musique au plus grand nombre de gens possible.
Tout à fait. Puis je pense aussi qu'avec ce côté-là, justement, où tu es cherché un petit peu plus profond au niveau des arrangements, ça va atteindre un plus grand nombre de gens, peut-être.
Oui, puis je pense que c'est accessible. Puis justement, l'éventail de gens... du fait qu'on mélange un peu, qu'on mélange le jazz, un peu évidemment la musique classique, on y touche. On touche à beaucoup de styles, ce qui fait que je pense qu'on peut rejoindre encore plus de gens avec ça.
Est-ce qu'un musicien émergent, tu penses qu'il y a potentiel de tailler sa place au sein du jazz montréalais? Peut-être, je ne sais pas, Maud, est-ce que tu peux nous exprimer un petit peu l'état de la scène du jazz montréalais, selon toi?
Bien, je pense que c'est de plus en plus vivant et on voit comme... je pense qu'on de plus en plus dans les dernières années, on voit un engouement, il y a plus de diffusion, il y a plus d'endroits où il y a du jazz qu'il y avait avant. Je pense que de plus en plus, aussi, il y a une éducation qui se fait. Les gens, souvent, sont un peu rébarbatifs, se disent « Oh, le jazz, moi, ça me dit rien, je comprends rien. » Puis finalement... ils se mettent à écouter, puis mm-hmm. ils se rendent compte qu'ils aiment vraiment ça.
Tout à fait. Il faut souvent des expériences de concerts, notamment, pour se rendre compte à quel point, justement, on peut embarquer dans un style ou un autre.
Exact.
C'est pour ça qu'il faut aller voir.
Simplement, ouverture et curiosité fait qu'on embarque. Puis,
faire un petit accro, le jazz, ce n'est plus ce qu'il est, parce qu'il est vraiment axé sur... les trucs qui sont assez populaires. Toutefois, il reste toujours la scène Radio-Canada qui, elle, est... très accessible, et en ce que j'espère que son emplacement va toujours l'être autant.
Espérons.
Aussi, au coin, quoi et quoi?
Si je ne me trompe pas, c'est Clark et Esplanade. Donc, ça a changé de place là, cette année.
C'est bon. C'est la scène Radio-Canada. Et est-ce que tu connais un petit peu la programmation de qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette scène-là?
Je vous dirais spécifiquement, j'ai pas regardé énormément, mais...
Beaucoup de talents locaux, je dirais. Kevin Warren est là. Il y a beaucoup de musiciens qui sont associés à Hot Sound. Jérôme Beaulieu. Et c'est des musiciens normalement canadiens et québécois. Et je pense que aussi le concours, il y a toujours un concours de jazz pour les nouvelles formations. Et je pense que c'est sur cette scène-là que les...
La plupart sont là.
Est-ce que votre groupe est en compétition?
Oui, c'est ça. On fait partie de la sélection pour le prix TD.
C'est le prix TD. Ouais.
En ce que je vous souhaite ardemment de gagner ce fameux prix. Je pense qu'on a l'exemple vivant ce soir que la relève jazz existe et qu'effectivement, l'engouement pour le jazz, justement, j'aime beaucoup dire que les jeunes musiciens font de la démocratisation un peu du style, sans vouloir se prostituer nécessairement en mettant ça vraiment accessible. Je pense qu'il y a moyen de rester quand même dans... de façon intègre.
C'est qu'il y a tellement d'influences maintenant, de toutes sortes de styles.
Exactement. Montréal, je dis souvent qu'on est une espèce d'une plaque tournante au niveau de la musique avec toutes les influences qui viennent de partout. Se pose un petit peu à Montréal quelques temps, ils s'en vont après pour apporter la bonne nouvelle.
Ça va être votre trio parce que le Quatuor à cordes ne sera pas là, je suppose?
Non, c'est ça. Ça va être juste en trio pour le
Est-ce que vous allez vous concentrer sur votre nouvel album ou il y aura du nouveau matériel?
Il y a du nouveau matériel. Oui, on fait trois nouvelles pièces qui ne sont pas sur l'album. Et puis sinon, ça sera complété de pièces que sur le nouvel album.
Et puis, est-ce que vous allez ailleurs cet été? Est-ce qu'il y a d'autres dates?
En fait, pas pour le mois de juillet. On fait... en septembre, le lancement officiel au Upstairs, le 13 septembre. Et on va faire aussi un lancement officiel à Rimouski, cette fois-ci avec tout le setup, donc avec toutes les cordes, les percussions, à la salle des Jardins TELUS le 26 septembre.
Et c'est un quatuor à cordes, on peut le nommer le quatuor à cordes?
Oui, quatuor Saint-Germain.
Saint-Germain. Est-ce qu'il y a une particularité à ce quatuor à cordes-là? L'approche, comment ça s'est fait, cette approche?
L'approche a été assez simple. L'altiste du quatuor, c'est mon conjoint. Donc, ça facilite les rapprochements. Dans le fond, moi, je connais très bien là, chacun des membres de ce quatuor-là. Puis, moi, je les ai approchés. Ils ont tout de suite été très emballés par le projet. Ils ont leur public. Je pense que ça va être intéressant aussi pour ce public-là de pouvoir écouter ce projet-là, complètement différent de ce qu'ils font habituellement. Ils sont actifs depuis, je pense que ça fait au moins 7-8 ans là, qu'ils jouent ensemble. Puis,
Encore une fois, où deux univers un peu diamétralement opposés se merge, pour ne pas faire un anglicisme.
On va entendre l'attente du chat, si je ne me trompe pas, il y a le quatuor à cordes sur cette pièce.
Oui.
Parfait.
Alors, c'était Amy R. Roussel avec sa pièce...
L'attente du chat.
Dans une très belle tonalité mineure, pour terminer, qui exprime bien ton sentiment, ton amour.
Oui, c'est ça.
Face à cette gamme d'accords. Écoute, c'est un album fantastique que je recommande à tous. Effectivement, assez accessible. Disponible partout?
Oui. Disponible partout, sur Internet, iTunes, archambault.ca, magasin Archambault, HMV.
Je te souhaite aussi qu'il soit en écoute libre chez Archambault, ça aide, hein?
Ça aide.
Ouais. Souhaitons-le.
Mais je te souhaite plein d'autres aussi, mais ça, là, tu vois chez Archambault, tu vois un album qui est affiché, tu dis, je vais l'écouter. Puis...
ouais, c'est un argument de vente.
Alors voilà, donc tu seras en concert le 28 juin prochain au Festival de Jazz de Montréal, à la scène Radio-Canada, coin Clark et Saint-Laurent.
Esplanade,
ouais. La Place des Arts. Donc, voilà.
À 19h.
Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis
merci à vous.
On se revoit en show.
Et nous allons enchaîner avec une autre entrevue. Nous avons en studio Mme Katharina Soukop, qui est productrice d'une série web documentaire qu'on pourrait appeler. C'est un web documentaire qui se nomme Jazz Petite Bourgogne, la vie en musique d'un quartier populaire. Bonsoir, Mme Soukop.
Bonsoir.
En grande forme?
Oui, merci.
Excellent. Le Festival de Jazz qui s'en vient. Vous avez lancé un web documentaire le 19 juin dernier. Ça a l'air d'une grosse affaire, ce web documentaire-là, quand même. Ça a l'air très, 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 très bien fait. En quoi consiste votre rôle dans toute cette aventure-là?
Je suis productrice du projet, puis ça veut dire un peu être chef d'orchestre d'une grande équipe. On avait à peu près une équipe d'une quinzaine de personnes qui ont travaillé là-dessus, puis évidemment un scénariste réalisateur, David Eng, qui a réalisé les 14 capsules web qu'on voit sur le site web. En plus, vu que c'est un projet multiplateforme, il y a le web documentaire sur espace.mu, mais il y a aussi une application iPhone qui invite les gens. Le web documentaire parle de la contribution de Montréal à l'histoire de jazz à travers le quartier de la Petite Bourgogne, surtout les musiciens noirs de ce quartier-là. Puis, avec l'application iPhone, les gens sont invités d'aller explorer le quartier, puis aller visiter les anciens lieux des clubs renommés comme Rockets Paradise, Café Saint-Michel, qui sont malheureusement aujourd'hui des stationnements bétonnés. Alors, des fois, donc on voudrait, évoquer cette ère-là, cet l'âge d'or de jazz, parce que moi, avant de commencer le projet, je savais que le Montréal était important pour le jazz, mais je ne savais pas à quel point c'était un point de repère pour les musiciens de Harlem, de Chicago. C'était un vrai plaisir pour ces musiciens de visiter Montréal, et souvent, ils ont resté, ils ont fait leur vie ici, ils ont marié des Québécois et Québécoises, et c'était vraiment... lieu très important pour eux.
Si on remonte à la genèse du projet, c'est une idée qui part de où, de qui? Est-ce que on voulait faire un constat ou c'est pour mettre en vitrine cette scène qu'on a un peu oubliée parce que, bon, on a le festival de jazz qui est très présent, mais d'où est-ce que ça vient? Parce que le festival n'est pas parti non plus de nulle part. Il y avait des racines à Montréal. Il y avait un courant jazz très, très fort jusque dans les années 70, début 80, quand le festival a débuté. Qu'est-ce qui a eu cette idée-là? Comment ça a parti?
L'idée, la genèse du projet, c'est en fait un lunch que j'ai eu avec une amie qui est résidente de la Petite Bourgogne. Puis ses voisins sont quelques-uns de ces musiciens qui ont vécu l'âge d'or de jazz à Montréal. Et il m'a dit, Katharina, ils sont incroyables. Ils ont 80, 85 ans. Et ils ont des incroyables histoires à raconter. Et si on ne les capte pas maintenant, on risque de les perdre pour toujours. Et j'ai dit, Jacques, mon ami Jacques, c'est un documentaire, ça. Puis il y a eu des larmes aux yeux, puis on a commencé de là. Puis initialement, je pensais que ça peut être un documentaire classique sorti en salle. Puis ça peut... Il y a beaucoup de problèmes avec documentaires, le financement des documentaires, mais la minute que j'ai décidé que ça peut être... intéressant comme un documentaire interactif webdoc avec plusieurs plateformes interactives. Ça a vraiment commencé, ça a pris l'essor. Puis Radio-Canada, nos amis à Radio-Canada sont tout de suite embarqués, puis ils ont été avec nous dès le début, puis ils ont cru très fortement à l'importance de cette histoire-là, puis de là vient le projet.
On parle de 14 capsules. Qu'est-ce qu'on voit dans ces capsules-là? Il y a du vidéo.
Oui.
Il y a de la musique.
Oui.
Et puis, ça dure combien? C'est 4-5 minutes par capsule?
3-4 minutes. Donc, c'est une, mais ce que j'ai dit, c'est une expérience qui est moitié cinématographique, moitié interactive. Puis, si on veut, on a le choix d'écouter chaque capsule web une après l'autre. Donc, on peut avoir une expérience classique cinématographique de 45 minutes.
De manière chronologique?
Oui. Ça raconte aussi l'arc narratif de, tu sais, les débuts de jazz, les débuts du quartier, pourquoi la communauté noire se retrouve là. Jusqu'à pourquoi, tu sais, avec la prohibition, par exemple. Ça voulait dire que Montréal était la seule grande ville en Amérique du Nord qui n'était pas sèche, on dit, qui était permise de boire de l'alcool ici. Puis ça voulait dire que c'est devenu une ville de nightlife, puis, tu sais, des clubs. Il y avait un millier de clubs sur la rue Sainte-Catherine à cause de ça. Donc, ça a contribué aussi à la scène, puis aussi le fait que le peuple québécois était beaucoup plus ouvert aux musiciens noirs, au peuple noir, en fait. Et ils ont trouvé Montréal était un peu comme un abri du racisme qu'ils ont rencontré aux États. Donc, tout ça a créé une belle mélange de choses, puis créé les conditions nécessaires pour l'âge d'or de jazz à Montréal.
Et pourquoi le quartier Petite-Bourgogne en particulier? Pourquoi c'était là? Pourquoi pas Hochelaga-Maisonneuve ou Rosemont-Petite-Patrie? Pourquoi il y avait une proximité avec certains emplois, je suppose? Ou...
Oui, ben, le quartier Petite-Bourgogne, la raison pour laquelle c'est devenu cet hotspot pour le jazz, c'est parce que, la communauté noire s'établit là parce que la communauté est proche aux deux gares de train, la gare de Bonaventure puis la gare Windsor. Puis à l'époque, le meilleur emploi qu'un homme noir pourrait avoir, c'était comme porteur sur les trains. Donc, le quartier c'était facile de s'y rendre au travail à pied. Donc, c'est pourquoi la communauté, tu sais, les Noirs ils ont habité ces quartiers-là. Et c'est pourquoi toute cette activité autour de jazz a commencé là.
Et à travers les capsules, quels sont les musiciens qu'on va découvrir, qu'on risque d'écouter?
Mais bien sûr, il y a les grands noms comme Oscar Peterson puis Oliver Jones. Il y a aussi, quelques noms qu'on connaît peut-être moins, mais ils étaient extrêmement importants puis ils étaient renommés par leur père ici et aux États. Dont il y avait, par exemple, M. Louis Metcalf, qui était un Américain qui s'installait à Montréal. Puis il avait été chef de l'orchestre international au Café Saint-Michel. Puis c'est lui qui a introduit Montréal au bebop. Il y a aussi, pour moi, une grande découverte, c'était Nelson Simons, qui était un guitariste extraordinaire, qui était aussi quelqu'un qui cherchait pas à être célèbre, mais qui était renommé par ses pairs, par Miles Davis, par John Coltrane, par d'autres personnes qui ont été invitées plusieurs fois à aller en tournée avec ces musiciens-là, puis il a toujours refusé parce que il aimait bien sa vie à Montréal, il aimait bien juste jouer live, il aimait pas être en studio, donc il y a très peu d'enregistrements de lui. Puis j'étais très fière de ça. On a eu la chance de découvrir une archive de Nelson Simons jouant live au Collège Vanier, et il ne savait pas qui était enregistré à l'époque. Il savait par après, mais il y avait, parce qu'il avait, il était toujours très gêné quand il était rentré en studio. Donc, il disait jamais que les enregistrements ont capté son vrai son. Puis après avoir écouté cette archive-là, il n'était pas au courant du fait que ça a été enregistré. Il a dit « Oh, you caught my sound. Vous avez enregistré mon son. » Donc, et je suis contente aussi parce que l'archive montre à quel point il était extraordinaire comme guitariste. Donc, pour moi, c'était une grande découverte, ça.
Lorsqu'on arrive sur le site qui est hébergé par Espace Moémus, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les web documentaires. Est-ce qu'on peut aussi écouter seulement de la musique de ces artistes-là?
En fait, ce qu'on avait fait, c'est de créer une section, surtout pour l'application à fond, puis ça va venir sur le site web, une section pour les albums essentiels. Et on était un peu limité par les albums qui étaient disponibles sur iTunes, mais vous pouvez télécharger des albums d'Oliver Jones, d'Oscar Peterson, de Louis Metcalf, de Nelson Simons, un des rares albums qu'il a enregistré. Donc oui, vous pouvez écouter la musique. Je pense espace.mu veut éventuellement mettre sur la page d'accueil une web radio dédiée aux musiciens associés avec l'époque et la Petite-Bourgogne. On peut après, on va, il y a les 14 web capsules, puis aussi on, au fur et à mesure cette semaine puis la semaine prochaine, on va ajouter aussi des extras. Par exemple, on va mettre au complet la chanson de Miles Davis, Miles Stones, qui est dans le web documentaire que Nelson Simon joue. On va le mettre au complet. Il joue ça avec Charlie Biddle. Donc, pour les gens qui veulent voir, c'est mettre pour plus de temps, ça va être disponible.
Donc, c'est un projet qui a été mis en ligne le 19 juin, mais qui va être encore raffiné, on va ajouter des trucs dans les prochaines semaines, voire les prochains mois à venir aussi.
C'est ça.
Donc, c'est un projet qui est vivant, qui est en développement.
Tout à fait. Puis, on veut créer des événements connexes autour. Puis, justement, une de nos partenaires, l'arrondissement Sud-Ouest, puis la Maison de culture Mère Huguet, ils offrent des concerts associés à Jazz Petite Bourgogne durant tout l'été. Donc, il y en a un ce dimanche à 13h ou 15h au Terrasse Atwater, le trio Samuel Blais. Et donc, oui, on veut créer des... On veut que les gens visitent la Petite Bourgogne, on veut que les gens apprennent cette histoire-là parce que c'est, comme moi, je pense ma génération ne connaît pas cette histoire très bien. Peut-être les gens les plus âgés qui ont vécu ça, qui ont fréquenté ces clubs-là, le connaissent. Mais je pense, nous, on ne connaît pas à tel point que Montréal était vraiment le lieu pour le jazz.
Alors, en effet, moi... je suis un peu au fait, mais vraiment pas à ce point-là. Et je pense que c'est un web documentaire qui va permettre de donner la chance à tout le monde de découvrir cette scène qui était quand même assez importante. Et aussi le côté ségrégationniste qu'il y avait aux États-Unis, mais qu'à Montréal, on n'avait pas. C'est quand même fascinant d'essayer de comprendre, OK, comment le jazz a pu s'établir à Montréal et aussi devenir aussi gros. Marie-Ève, tu voulais...
Oui, en fait, j'aurais quelque chose à rajouter. Est-ce que vous pensez... Bon, on sait que le jazz est un peu né comme en Nouvelle-Orléans. Après ça, il a été plus vers Chicago, New York. Est-ce que vous pensez qu'il a effectué un arrêt à Montréal dans ces années-là, justement, 50-60, au moment où c'était très, très, très en action aux États-Unis? Moi, je ne savais pas vraiment... Je n'étais pas tant au fait aussi qu'à Montréal, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, je me dis que c'est tout de même une ville qui est nord-américaine. Si vous dites ici qu'il y a des choses qui se sont passées, ça devait être un petit peu après que New York, ça commençait pas mal à bouillir. Tu sais.
Oui, mais c'était par après que ces musiciens sont allés en tournée, puis ils ont arrêté ici dans leur tournée, puis ils sont tombés en amour avec le jazz. Puis il y a comme un clip des archives de Duke Ellington qui, tu sais, l'intervieweuse lui demande de dire quelque chose au public montréalais dans son bon français, puis il dit « Je vous aime à la folie ». Puis je pense que c'était un sentiment que beaucoup de musiciens ont eu envers Montréal puis les peuples québécois.
Est-ce que ce fut compliqué à faire la recherche des archives et puis communiquer avec les artistes qui sont toujours vivants? Côté plus technique de la production, comment ça a été monter tout ce web documentaire?
Je dirais que c'était comme un peu comme un chasse au trésor. On a commencé par contacter la communauté existante. Donc, les gens qui ont habité dans le quartier, peut-être ils n'habitent pas tous dans le quartier encore, mais on a commencé là. Une bonne chose avec notre partenariat avec Radio-Canada, c'est qu'eux, à l'époque, étaient peut-être l'institution qui enregistrait le plus ces musiciens-là. Mm. Donc, on a pu fouiller dans leurs archives, puis on a trouvé des belles, belles choses-là. On a fouillé dans les archives de l'ONF. Et aussi, une grande, grande partie de nos retrouvailles était les archives de l'Université Concordia. Parce que eux, l'ancienne archiviste Nancy Morelli, qui a écrit le livre numérique qui est associé au projet, elle avait ramassé une collection extraordinaire de photos, des collections qui venaient directement des musiciens comme Herb Johnson, qui est notre poster boy, le monsieur au saxophone qui est sur notre affiche puis nos cartes de postale. Donc, il y avait beaucoup de matériel qu'on a trouvé là, des photos, des menus, des clubs, des talons de billets pour des spectacles de Miles Davis au Black Bottom, par exemple.
Donc, des artefacts qui ont une valeur historique et sentimentale aussi. C'est un projet bilingue en plus.
Oui.
Donc, si on se rend sur cbc.ca, on va voir la version anglophone.
C'est ça.
Et c'est quoi le nom de la version anglophone?
Le nom de la version anglophone s'appelle Burgundy Jazz. Donc, c'est cbcmusic.ca / Burgundy Jazz.
Burgundy Jazz. On parlait de visites guidées. Il va y avoir des visites guidées dans le quartier pendant le festival de jazz. À quel endroit ça part? Est-ce qu'il faut se rendre directement vers le quartier ou on part du site du Festival de jazz?
Un de nos partenaires, l'Hôte Montréal, qui font, je les admire beaucoup parce qu'ils font des tours guidés de, tu sais, des lieux off qui sont pas sur le circuit touristique nécessairement, mais qui ont une grande valeur culturelle. Ils vont faire des tournées, visites guidées jazz. C'est pas ils vont toucher un peu la Petite Bourgogne. Ils vont toucher, je pense que le lieu de rencontre, c'est le Gare Windsor. Et ça va avoir lieu pendant les deux fins de semaine du festival, disons le 28 juin au 1er juillet, puis le 4 au 7 juillet. Et il y a des frais, c'est 20 $ plus les taxes. Et Léa Blythe, qui a créé ces tours, ces visites-là, va vous amener dans les lieux des anciens clubs, etc. Elle ne va pas descendre dans la Petite Bourgogne, dans les lieux où vous pouvez visiter avec l'application iPhone, mais vous allez avoir un grand aperçu des lieux de jazz.
D'accord. L'application iPhone, elle est déjà disponible?
Elle est déjà disponible, elle est gratuite. Vous pouvez le télécharger sur le magasin iTunes.
D'accord. Avant de conclure, vous avez parlé qu'il va y avoir un livre qui va paraître, je crois que c'est le 3 juillet, c'est marqué sur le site Internet. Oui. C'est un livre avec les artefacts en question. C'est un livre numérique?
C'est un livre numérique et c'est écrit par Nancy Morelli avec les photographies de Paul Litherland. Puis on avait fouillé dans les archives pour trouver des objets, des artefacts jazz, pour avoir les textures de cette ère de jazz-là. Donc, comme je l'avais dit, on avait trouvé des taillons de billets, des instruments. On a trouvé la guitare de Nelson Simons. J'étais tellement contente de ça. Puis c'est magnifique. Quoi d'autre? On a des vêtements des années 20 durant l'âge d'or, puis d'autres trucs comme ça. Des albums en vinyle, des gramophones et tout.
D'accord. Et puis, on n'a pas l'intention d'en faire une édition papier. Ça va rester en livre numérique?
Je pense que ça va rester en livre numérique.
C'est un projet web, donc tout est en projet web. Oui, Marie-Ève?
Bon, en fait, je te pourrais dire un petit peu de façon ironique, si on suit la prédiction, supposément que le support papier va disparaître, donc tout si bien qu'il soit.
Seulement en version numérique. Mais c'est une belle, c'est une belle démonstration aussi de la puissance de l'Internet aussi, de la façon de ramasser toutes ces archives-là, de les mettre dans un web documentaire. Et aussi, peut-être que c'est à moindre coût, d'une certaine manière, par rapport à un documentaire qui serait voué vers les salles de cinéma. Est-ce qu'il y a une échelle de coût qui est assez différente ou c'est est-ce que ça vit plus longtemps sur Internet?
Je dirais non. Notre budget était à peu près la même chose que si on faisait un documentaire classique, linéaire, pour sortir en salle. Moi, j'ai trouvé ça juste fascinant qu'on pourrait, que ça peut être disponible un grand public tout de suite au lieu d'attendre les sorties en salle dans chaque ville, au festival, etc. Puis aussi, par rapport à l'application iPhone, j'avais déjà produit un pour les rivières perdues de Montréal. Puis moi, ce que j'aime de ça, c'est le contenu géolocalisé parce que ça peut augmenter notre expérience de l'histoire, mais aussi des lieux. Donc, l'idée d'avoir ces infos-là devant le lieu où ça a eu lieu, pour moi, c'était fascinant.
C'est comme un audio guide qui te suit.
Puis l'application iPhone était faite aussi. On avait deux designers sonores qui ont travaillé sur cette application-là, Samuel Tulin puis David Drury. Ils ont créé des pièces sonores incroyables. Samuel, en particulier, a créé des pièces sonores interactives. Et on peut interagir avec notre téléphone iPhone et ça influence le son. Donc, par exemple, il y a quatre routes qui en sont offertes, quatre tours guidées, dont un, c'est la route de la communauté noire, puis on peut visiter l'église Union, qui est très important pour la communauté. Et la pièce sonore de Sam à ce lieu-là, on entend la congrégation, on entend les chansons, puis si on met le téléphone en haut de nous, on entend « Amen ». Donc, c'est un peu ludique, puis c'est aussi pour encourager les jeunes d'explorer ça.
Wow. Ce projet-là est déjà en ligne. Vous, personnellement, avez-vous d'autres projets, peut-être en lien avec le jazz ou une fois que ça s'est en ligne, vous travaillez maintenant sur un autre projet de documentaire ou de web documentaire?
Je termine en fait un autre documentaire musical, un documentaire sur la musique, puis c'est pas au sujet de la musique jazz, mais plutôt la musique indépendante contemporaine. C'est un documentaire sur le groupe de musique montréalais Silver Mount Zion.
Ah, très intéressant ça. C'est dans nos cordes ici quand même. Je vous remercie beaucoup pour cette visite, pour ces éclaircissements sur pour la genèse de ce projet-là. Je suppose que à l'extérieur du site internet de espace.mu, sur le site du FSJM, aussi dans le programme, on va avoir de la publicité de votre projet Jazz Petite Bourgogne.
Oui, en fait, on a eu des beaux partenariats avec le Festival de Jazz, avec l'Haute Montréal, avec l'arrondissement Sud-Ouest qui fait une programmation estivale dont trois concerts durant l'été. Donc, on est content parce qu'on peut vraiment faire rayonner le projet.
Parfait. Merci beaucoup, Madame Sukop, de votre passage. Nous allons glisser rapidement en musique et puis on va revenir juste après une autre pièce de Luis Perdomo.
Thank you.
Crossmind Dreams de Luis Perdomo sur l'album Lynx. Composition de Luis Perdomo avec Miguel Zenon au sax alto, Edwin Bruno à la contrebasse et Ronnie Green à la batterie. Je rejoins Marie-Ève et Amy de l'autre côté en studio. Toujours avec moi?
Oui.
Alors, on va y aller avec nos suggestions pour le festival de jazz qui commence ce jeudi. Officiellement, ce vendredi, car il y a quand même des concerts le 27, mais ça commence le 28 sur l'affiche.
Ah, les concerts du 27, c'est pas mal des jet sets, là. On parle des gros concerts de salle.
Je crois que c'est pas Holy Cole, mais il y a quand même Gilad Exelman, qui est un très bon guitariste au Upstairs.
Ah oui. Ben écoute, moi, j'ai quelques trucs à souligner. Malheureusement, j'étais pas présente à la conférence de presse pour les shows extérieurs, donc j'ai fait le tour tantôt, puis ça me semble être quand même pas mal intéressant.
Il y a toujours quelque chose à se mettre sous l'oreille. Il suffit d'être curieux ou d'y aller selon ses goûts. Les scènes sont assez thématiques, donc on y va selon les scènes qu'on préfère. Puis on...
Mais là, je vais y aller, par exemple, avec un album. Un concert en salle, le Chucho Valdés and the Afro Cuban Messenger, je l'ai tellement entendu parler que
j'ai pas pu
passer à côté. Donc moi, je vais aller voir ça. C'est le 28 juin à Maisonneuve. On se tient à la même date, mais cette fois dehors, Dan Taylor Watson et Paul Delaurier.
Un duo de guitare. Hein?
Oui, guitare-voix, superbe album blues. J'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là, qui est très... l'album s'appelle Americana. C'est très retour aux sources. Je sais pas, moi, il me vraiment...
Country folk.
Oui, c'est ça, exactement. Mais les deux voix ensemble s'entremêlent. La prise de son signée Charles Papasoff est complètement extraordinaire. T'as vraiment... D'habitude, deux voix ensemble ne sonnent pas comme ça. Mm. Puis, dans ce cas-ci,
c'est un bon réalisateur, Charles Papasoff. J'aimerais l'entendre plus au sax. Il jouait beaucoup plus dans les années 90. On l'a perdu un peu.
Oui, exactement. Ensuite de ça, le 29 juin, pour moi, je vais aller probablement voir Jordan Officer à la scène Heineken à 17h.
Donc, très bon guitariste.
Oui, puis il y a des belles lignes de guitare à repiquer aussi. Et ensuite de ça, Rémi Panossian Trio, on a fait jouer à un moment donné. Uh-huh, uh-huh. Cette espèce de bête de piano-là, de rock jazz européen. Moi, j'ai appris tout à l'heure, en fait, qu'il joue à la scène Radio-Canada de 19h.
C'est la scène à suivre pour le jazz, là, plus jazz avec un grand J. Là.
Oui, c'est ça, mais en fait, c'est ça. Voyez-vous, là, ici, on parle de jazz rock européen. Après ça, on va aller dans le jazz montréalais. Tu sais, c'est vraiment de tout, là. Le 30 juin, bon, évidemment, il y a le trio Jérôme Beaulieu à la scène Radio-Canada à 19h. Puis ensuite, à minuit, l'Astral fait un open house pour le Speakeasy Electro Swing. Est-ce que tu connais ça?
Non, je connais pas.
OK. Ben, en fait, le Speakeasy, c'est DJ Don Mescal qui travaille avec moi à Camus aussi, qui fait les platines sur du jazz, mais qui accélère ça. C'est super intéressant. C'est vraiment le fun à danser aussi. Il faut que tu aies un bon souffle, par exemple, parce que c'est assez rapide. Il y a des musiciens qui sont avec lui aussi pour l'accompagner. Fait que ça risque d'être assez chill, entre guillemets, pour la fin de la soirée.
Ouais.
Puis c'était pas mal ça pour...
Merci, merci. Amy, de ton côté, des trucs que tu as relevés de la programmation?
Moi, sans hésiter, quand j'ai vu le nom de Macy Gray, je me suis dit « Wow, il faut absolument que j'aille voir ça. »
Avec David Murray.
Ben, c'est ça, rencontre du jazz et du R&B, ça promet.
Je pense qu'il était à Ottawa, donc on peut aller lire des critiques de spectacles, pour se faire une idée, voir dans quel genre ils vont aller.
Oui, puis je pense qu'ils tournent beaucoup là, avec ce show-là. Là.
Ça va être rodé, c'est sûr.
Exactement. Ouh, ouais. Sinon, il y a Antonio Sanchez qui va être super
avec son album
aussi.
New Life.
Et David Binet.
Ouais. Oui, exactement. Oui. Un pianiste aussi que j'ai découvert récemment, Enrico Pieranunzi.
Bien sûr.
Je ne sais pas si vous connaissez.
J'ai fait jouer la semaine dernière. Je n'étais pas ici, je n'étais pas en studio, mais il a sorti un album avec Paul Motion.
Oh.
C'est Live at the Village Vanguard.
Oh.
Et puis, ça a été enregistré, je pense, en 2009-2010. Puis, c'est du piano trio là, de haute tenue.
Ouais. Là, c'est ça, il va être en solo.
En solo.
Piano solo, fait que ça va être... Très intéressant. Puis sinon, un dernier que j'ai entendu en feuilletant la programmation, je sais pas si je prononce bien le nom, par contre, Vijay Iyer.
Bien sûr.
Il fait la série Invitation, donc il y a comme trois formules, là, je pense solo, duo, puis trio. Mm-hmm.
Solo, duo avec Craig Taborn, un duo de pianistes, et avec son trio régulier. Ça, c'est au Jésus. Hein? C'est tôt, c'est à 6h, car il y a des concerts à 6h, donc faut... C'est tôt.
J'étais impressionnée que c'est des concerts de une heure. Moi, à un moment donné, j'ai fait cette erreur-là de dire « Ah, je vais revenir après l'entraque », mais il n'y a pas d'entraque.
Non, il n'y a pas d'entraque au Jésus. C'est une heure et demie gros max, là, parce qu'il y a plusieurs concerts dans la même soirée. Il y a un rappel, si l'artiste y a pensé, là, il a quitté la scène avant pour avoir son rappel. Parce que c'est technique, hein? moi, de mon côté aussi, j'avais mis, bien sûr, Vijay ailleurs. J'ai déjà vu en concert et c'est vraiment de bon niveau. Tim Burn avec son projet Snake Oil, qui est au Jésus, que nous avions vu à la Casa del Popolo l'année dernière. C'est toujours bon. Sinon, Charles Lloyd, qui est aussi dans une série Invitation. Charles Lloyd, un vétéran du sax, qui sera là avec Jason Moran au piano, Robin Rogers et Eric Harden. Il y a plusieurs concerts de Charles Lloyd. Il y a trois concerts, en fait. Il y a un concert duo avec Bill Frisell et Jason Moran, et il y a aussi son autre trio, Sam Gamm. Mais moi, je préconise plus le Quatuor pour l'avoir vu déjà à Québec. Un très, très bon concert si vous aimez le jazz à style un peu ECM, là, pas trop violent, mais quand même avec une bonne prise de risque aussi, malgré tout.
Je tiens à préciser aussi qu'il y a toujours la fameuse série, les Jazz Composers, dont Rachel
Bien
Carrier
sûr,
était venue
au
nous
Bleu
parler.
Bar à vinyle.
Exactement. C'est vraiment juste derrière l'Esplanade des Festivals. Voyons, la place des Festivals. donc, c'est le lieu du 1er au 6 juillet en partenariat avec le Festival de Jazz.
Parfait pour finir la soirée si vous n'avez pas eu assez votre dose, là.
Oui, exactement. Mais en fait, bon, moi, je dis souvent, il y a la scène Radio-Canada et là, il va y avoir l'extension de la scène Radio-Canada au Bleury parce que chaque soir, en fait, ça va être des groupes qui sont formés de jeunes musiciens compositeurs de la relève qui viennent de New York principalement et de Montréal, qui n'auront jamais joué ensemble, ça va être des compositions originales. Donc ça va être pas mal intéressant.
Ça peut être le prélude aussi à d'autres des collaborations futures. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, mesdames.
Et ça fait plaisir. Maxime, on se revoit quand, nous?
On va se revoir en septembre.
Ben, bonnes vacances.
Pour une 25e session. Ouais, mais...
On va fêter ça en grand 25 ans, 25e session.
25e session, on va arriver à 325 émissions bientôt. Là. Merci.
Merci.
On va quitter avec un peu de Frank Rosali. Ceux qui m'écoutent souvent savent que j'aime beaucoup le jazz via Chicago. Frank Rosali, né en 1974 à Phoenix, en Arizona, il vit maintenant à Chicago, fait partie de plusieurs groupes. C'est un batteur que moi j'aime beaucoup lorsqu'il mène ses groupes, mais aussi lorsqu'il accompagne. On l'a vu avec Jason Robke, avec le quartet de Jason Stein, avec le Scorch Trio. Il joue en tant que leader de Cisada Music, ce qu'on va entendre, Millwork, Green and Gold. Parlant, j'ai nommé Jason Robke, je suis allé voir People, Places and Things samedi dernier à la Sala Rossa. Ils n'ont pas joué longtemps, quoi, 45-50 minutes, mais c'était très, très bon. Le projet de Mike Reed, le batteur, vraiment, je recommande. Vous pouvez aller lire mes comptes rendus aussi par rapport au Sony Peril Popolo au notallthatjazz.wordpress.com. On va se quitter avec l'album Cisada Music sur Delmark, un album paru il y a quelques semaines. En fait, c'est paru au mois d'avril. Il y a James Falzone à la clarinette, Jason Stein à la clarinette basse, Keith Jackson à la clarinette basse, de même qu'à la clarinette contrebasse et au sax ténor, Jason Dasiewicz au vibraphone et Jason Robke à la contrebasse et à l'électronique. Tout un batteur, ce Jason Robke, en concert, j'ai vraiment été impressionné. Je ne m'attendais pas à autant de groove de sa part, mais c'est une bête. Allons-y avec le titre Typophile Apples sur Cisada Music. Mon nom est Maxime Mouchard, c'est un plaisir pour moi de vous accompagner cet été. On va se retrouver en septembre pour une 25e session. Thank you.
festival Sony Paris Popolo, festival de son underground à Montréal. Joe McPhee, Radu Malfatti, Reese Chatham et Oneida, Nate Woolley, Paul Litton et Ken Vandermark, Terry X et Paul Nilsson Love, Elfin Saddle, Hanged Up, Lean Left, Staircase, Nouveau Jazz Libre de Québec, Theologian, Anne, Emrical, Ian Kamau, Joe Morris Trio. Calendrier complet, billets et informations en ligne au sonyperilpopolo.org. Les billets sont maintenant disponibles.
Vous écoutez